L'habitude de dire, hein, quand nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je vais tout faire pour nous amener dans ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et notre lutte à nous ce matin, c'est de ne pas avoir 36 000 pensées qui pourraient nous déranger dans le message, mais c'est vraiment tout faire pour que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs, que nous soyons vraiment réceptifs, prêts à écouter, à obéir à Dieu, à le suivre dans ce qu'il veut nous montrer. Donc, tout comme vous, moi j'ai à écouter, à recevoir et à mettre en pratique. Première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que le plus grand désir de Dieu, c'est vraiment le plus grand désir, c'est notre joie complète. Le plus grand désir de Dieu pour toi, pour moi, c'est un bonheur total. Vous êtes là? Dieu a toujours désiré que la joie caractérise la vie du croyant, caractérise la vie de l'Église. La joie n'est pas seulement une émotion, mais une qualité enracinée en Dieu lui-même. Dieu est joyeux. Elle vient de lui. La joie vient de lui. Dieu veut sans cesse nous transmettre sa joie. Il veut que la nôtre soit complète, parfaite, qu'on soit totalement satisfait en lui. Il n'a cessé de vouloir cela pour toi, pour moi. Le plus grand désir de Dieu. Et devant cette vérité, que nous allons voir tout à l'heure dans un texte en particulier, comment jouir sans cesse de cette plénitude de joie qu'il y a en Dieu, que Dieu veut nous offrir. Je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu, Jean chapitre 16, 22 à 24. Jean chapitre 16, versets 22 à 24. Jean chapitre 16, versets 22 à 24. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples avant de mourir, avant sa mort. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Pourquoi ? Pour que votre joie soit complète. La première chose que nous apprenons ici dans ce texte, c'est que Dieu veut donner à ses disciples, veut nous donner aussi à nous, une joie éternelle qui peut traverser toutes les difficultés. Dans le contexte ici, juste avant les mots que Jésus a prononcés et que nous venons de lire, Jésus dit de plus en plus clairement à ses disciples qu'il va partir. Mais en plus de leur dire qu'il va partir, il dit « le monde va vous haïr ». Ah ouais, d'accord. Comme ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et il poursuit en disant, vous allez non seulement vivre la persécution en étant chassé des synagogues, des maisons de prière, mais on va aussi vous faire mourir. Plus dur que ça comme message, on ne peut pas, n'est-ce pas ? On peut bien comprendre pourquoi à ce moment précis, les disciples sont dans une profonde tristesse. Il va partir, il nous laisse, il nous dit qu'on va nous haïr, qu'on va jusqu'à nous faire mourir. C'est quoi tous ces mots? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Et c'est en parlant de persécution que Jésus prononce ces mots que nous venons de lire. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur. Mais je vous verrai de nouveau. Il va avoir une... Ils sont dans la douleur. Il va avoir un moment très très douloureux qui est que Jésus va être arrêté, condamné, mourir. Mais de quoi être dans un moment vraiment douloureux. Et juste après cela, mais je vous verrai de nouveau. Et alors, votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Donc le texte est en train de nous dire quoi? Que la joie de la résurrection, personne ne pourra l'enlever dans la vie des disciples. Bien plus, pour nous-mêmes aussi. Est-ce que la joie de la résurrection, personne ne peut vous l'enlever? La joie de la résurrection. Le fait de savoir que Christ est ressuscité, le fait de savoir que Christ, enfin la mort ne pouvait pas tenir devant Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Cette vérité est tellement bouleversante qu'elle devrait nous amener à avoir cette joie éternelle capable de traverser toutes les difficultés. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'épreuve, le fait de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, que la mort n'a pas pu le retenir, et qu'il revient bientôt, devrait alimenter non-stop notre joie. Personne ne peut enlever cette joie. L'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, son retour. Mais là, l'accent est sur la résurrection. La deuxième chose... Jésus poursuit en disant « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Il ne parle plus de joie qui va demeurer, qui sera éternelle, quelles que soient les circonstances, mais d'une joie complète, parfaite, totale, d'un bonheur 100%. On pourrait dire « Dieu veut nous donner, en fait. » Une joie totale, pas 99%, mais 100% de joie. Et par quel moyen? La prière. La prière. Jésus est tellement préoccupé par notre joie, par la joie de ses disciples. C'est fort quand vous prenez le temps de lire tout l'évangile de Jean. Il revient sur ce thème. Et on voit bien que pour Jésus, ce n'est pas un sujet annexe, secondaire, du tout. C'est un sujet central. Il va jusqu'à prier pour notre joie. Jean chapitre 17, verset 13. « À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne. » Une joie parfaite. Une joie parfaite. Mais qu'en est-il de notre vie de prière? Je ne sais pas si c'est ce que nous avons en tête quand nous parlons de la prière ou quand nous parlons de notre propre vie de prière. Si nous demandions à quelqu'un comme ça, mais pourquoi tu pries? Alors on pourrait entendre toutes sortes de choses. Pour obéir à Dieu, parce qu'il faut prier, parce que la Bible le dit. C'est quelque chose de bien, ou ça me fait du bien. C'est un commandement. C'est pour être en relation avec Dieu, etc. Ces réponses sont bonnes. Mais à la lumière de ce que Jésus dit, nous devrions pouvoir répondre si la prière, ce pourquoi je prie, si je prie, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus grand pour moi. C'est ce qui m'amène à avoir la plus grande joie possible. C'est mon plus grand bonheur de prier. Est-ce que vous dites cela? C'est ma plus grande joie de vivre la prière. Je ne fais que dire ce que Jésus est en train de dire, mais le dire un peu plus clairement pour vous. Est-ce que votre vie de prière est ainsi? Est-ce que vous pouvez dire que dans la prière, votre joie ne cesse de s'intensifier? Est-ce que nous pouvons dire ensemble que la joie est totale? Notre joie est totale par la prière. J'aimerais que nous voyions dans quel cadre nous pouvons prier, parce qu'on parle de prière ici, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Dieu veut qu'on prie pour avoir une Porsche, être les plus riches du monde, pour que tous les dimanches matin nous puissions manger le meilleur poulet du monde? Bon Manu, tu vas arrêter avec tes poulets. Jésus dit à ses disciples que jusqu'à présent, ils n'avaient pas demandé en son nom. Ce n'est pas que les disciples n'avaient jamais demandé quelque chose à Jésus. Et certainement qu'ils vivaient quand même une certaine vie de prière. Même si on voit très peu leur vie de prière. Mais ils n'avaient jamais demandé quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ. Rien demander à Dieu en ayant Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes. Cette compréhension que je peux m'adresser à Dieu au nom de Christ, cela n'était pas quelque chose qu'ils avaient vécu, pratiqué. Mais qu'est-ce que ça signifie demander au nom de Jésus? Alors plusieurs disent cette formule, vous savez, à la fin de leur prière. On est peut-être certainement plusieurs à faire cette formule-là. D'autres ne le font peut-être pas. Pas du tout, de temps en temps. Est-ce que, quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il faut toujours dire à la fin de notre prière, au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Signature. C'est bon, j'ai signé, ma prière va être exaucée. Hein? Mon frère, ma sœur, elle a prié, mais elle n'a pas dit au nom de Jésus, elle ne sera pas du tout exaucée. Hein? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Non. Du tout. Deux choses pour comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu exauce toutes nos prières que grâce à Jésus-Christ. Oui, bien sûr, Dieu a déjà exaucé des prières à des non-croyants. Tout cela pour les attirer à lui. Mais on parle d'exaucer toutes nos prières. Ce n'est que grâce à Jésus-Christ. Je n'ai aucun mérite pour m'approcher de Dieu. Personne n'est parfait, tout le monde est d'accord avec ça. Qui aime Dieu parfaitement? Qui aime son prochain parfaitement? Normalement, si on aime nos prochains parfaitement, ça veut dire qu'on aime nos ennemis. On est loin, on est vraiment loin du niveau que Dieu attend de nous et de la ressemblance à Christ. Seuls ceux qui sont pardonnés de leurs péchés par Jésus-Christ, par l'œuvre de Christ, mort et ressuscité, peuvent avoir accès à Dieu. Donc, il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons nous adresser à Dieu, avoir un libre accès dans la présence de Dieu pour présenter nos prières. Donc, la première chose, c'est clair. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître que ce n'est que par Jésus-Christ que je peux avoir accès à Dieu et adresser une quelconque prière. Que par Jésus-Christ. Deuxième chose, Dieu exauce toutes nos prières que si elles sont selon la volonté de Jésus-Christ. Si nous prions selon la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous prions au nom de Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est aussi prier pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Le voir régner davantage dans ma vie, dans ce monde. Quand on dit de prier pour, selon la volonté de Dieu, c'est en fait prier sans cesse pour nos familles, nos amis, nos collègues de travail, tous ceux que nous connaissons, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est aussi prier pour que des milliers de personnes se donnent à Christ, reconnaissent que Christ est le seul Sauveur et le seul Seigneur, acceptent Dieu comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, se tournent vers lui, demandent pardon pour leurs péchés, l'abandonnent et vivent pour lui. Prier pour selon la volonté de Dieu, c'est prier pour la croissance spirituelle de l'Église, pour sa sainteté, pour l'unité, pour que Dieu règne davantage ici parmi nous, et aussi dans notre propre vie personnelle. Et on pourrait dire encore plein de choses par rapport à ce que ça signifie, prier selon la volonté de Dieu. Autre chose. J'aimerais dire une chose qui est importante à entendre. Peut-être que certains sont en difficulté en se disant « Mais c'est le désir le plus grand de Dieu, ma joie totale, mon bonheur. » Ah bon ? Mais j'ai jamais entendu ça. Ah oui, d'accord, je vois les textes bibliques et je me rends compte que c'est ça. Mais n'est-ce pas la gloire de Dieu qui est ce qu'il y a de plus important pour Dieu ? Vous êtes d'accord avec ça ? Normalement, c'est sa gloire. Pourquoi dans cette prière, ce serait notre joie ? Et j'aimerais dire ceci. La gloire de Dieu et notre joie sont inséparables. Inséparables. Jésus dit pratiquement la même chose par rapport à la prière dans Jean chapitre 14, verset 13. Juste deux chapitres avant, Jésus ne fait que insister. Vous remarquerez que dans chapitre 14, Jésus parle de la prière. Dans chapitre 15, Jésus parle de la prière. Dans chapitre 16, il parle de la prière. Si on n'a pas compris que Jésus veut qu'on prie, voici ce qu'il dit. « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Le but de la prière ici n'est pas la joie parfaite des enfants de Dieu, mais la gloire de Dieu. Alors à votre avis, est-ce que ces deux buts sont les mêmes ou pas ? Quand on dit qu'ils sont inséparables, ça veut dire quoi ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Oui ? Non ? Vous êtes toujours là ? Je suis sûr, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en fait, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que notre joie. Quand même Moïse avait demandé, et ça je l'ai souvent dit ici, Moïse avait demandé à Dieu de lui révéler sa gloire, Dieu lui a dit, je te montrerai toute ma bonté. Je te demande la gloire, tu veux montrer toute ta bonté. C'est quoi le lien là ? Et parce qu'en fait, toute ma bonté, c'est toute ma gloire. Tout mon amour pour l'humanité, c'est toute ma gloire. Tout le bonheur de l'homme ne fait que me glorifier moi. Et donc ça m'amène à dire ceci, vouloir la gloire de Dieu, c'est vouloir notre plus grand bonheur. Vous savez, ce qui glorifie, élève et honore le plus Dieu, c'est quand nous sommes dans une joie totale en lui. Ce qui glorifie le plus Dieu, c'est quand nous sommes heureux en lui, satisfaits en lui. Quel parent serait satisfait d'avoir un enfant qui n'est pas du tout satisfait, qui n'est pas bien, qui n'est jamais joyeux ? La gloire des parents dans l'éducation qu'ils vont apporter aux enfants, c'est leur bonheur. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est le bonheur des enfants. Il y a des gens qui pensent que si nous vivons totalement pour la gloire de Dieu, notre vie sera ennuyeuse, pénible, triste, monotone. On ne peut pas vivre comme on veut. C'est nul de vivre la vie chrétienne, puisque quand on vit avec Dieu, il veut toujours prendre ceci, prendre cela. On ne peut pas vivre. On s'est rendu compte lors d'une réunion de prière que nous avons eue dernièrement, une personne disait, on n'ose pas tout donner à Dieu parce qu'en fait on a peur, on a certaines craintes. Si on donne tout à Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la tuile qui va nous tomber sur la tête? Comme si Dieu était un Dieu méchant, hein? Je ne sais pas si vous avez cela en tête, mais beaucoup pensent que quand nous vivons pour la gloire de Dieu, on ne pense plus du tout à la joie. D'un coup, la joie, elle n'existe plus. Je suis dans la joie que Christ soit mort et ressuscité. Quelle joie immense! Mais je vois, je commence à lire la Bible et, ah ouais, il faut faire tout ça. Et puis là, et toute la vie chrétienne, c'est que ça, quoi. Et on oublie totalement la joie. Comme si la vie, vivre pour la gloire de Dieu, était séparée de la joie que cela procure dans notre vie. Jésus lui-même a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. On a tout à gagner à perdre notre vie. Tout à gagner à nous donner entièrement pour Christ. On a tout à gagner à vivre pour la gloire de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour notre plus grand bonheur. J'ai souvent donné cette image qui est un peu bizarre, mais j'ai dit toujours, quand on parle d'une bouilloire, son rôle, elle a été créée pour... Pourquoi ? Pour bouillir de l'eau. C'est tout. Donc, son rôle efficace, là où elle sera totalement épanouie, c'est quand on va mettre de l'eau, qu'on va la brancher sur le secteur et qu'on va appuyer sur le bouton. À ce moment-là, c'est bon. Elle fait ce pour quoi elle a été créée. Mais si je l'enlève du secteur, il ne va rien se passer. Si je n'appuie pas sur le bouton au moment où il est sur le secteur, il ne va rien se passer. Si je ne mets pas un peu d'eau dedans, elle ne va pas être épanouie. Et on ne se moque pas de l'image de Manu, hein. La parabole de Manu Bouton. Quand Dieu nous a créés, notre plus grande joie se trouve en fait en lui. On a beau la chercher n'importe où, on va chercher, chercher et chercher. Les gens, à force de chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à adorer d'autres dieux, à devenir alcooliques, dépendants de la pornographie. Et on met toutes les dépendances totales possibles. Et même des dépendances auxquelles nous ne rendons même pas compte. Internet ou autre. Des choses qu'on est là et on essaye de combler notre bonheur. Et on passe à côté de ce qui en fait est la source du bonheur. Ou plutôt celui qui est la source du bonheur. C'est Dieu lui-même. Et vous voyez un peu l'image de la bouilloire, c'est un peu cela. C'est quand l'homme est connecté à Dieu qu'il est dans son, qu'il vit dans le plus grand bonheur. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est ce qui va le plus glorifier Dieu. C'est quand ses enfants vont vivre dans un bonheur total. Si on pense au sermon sur la montagne, Jésus ne fait que se répéter heureux, 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 heureux. Et puis nous on est là, malheureux, 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 malheureux. Non, Dieu a dit heureux. Il ne visait que le bonheur. Bien sûr, dans heureux, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Heureux, celui qui pleure, par exemple. Mais il visait le bonheur par rapport à une vie qui est réaliste, une vie de foi, une vie qui est une vie de dépendance de Dieu. C'est là notre bonheur. La vie que Jésus nous propose est une vie de joie. Mais c'est tellement contraire à ce que les gens pensent de la vie avec Dieu, de la relation avec Dieu. Même ceux qui appartiennent à Dieu peuvent encore avoir cette mauvaise compréhension. Alors que Jésus-Christ, mort et ressuscité, la relation avec Dieu, la vie éternelle et tout ce qui s'ensuit, devrait nous remplir sans cesse de joie et de bonheur. Donc retenons ceci, vouloir la gloire de Dieu, c'est vouloir notre plus grande joie. Quand on prie pour que Dieu règne sur terre, Nous sommes juste en fait en train de demander que tout le monde soit rempli de la plus grande joie possible qui se trouve en Dieu. Quand on prie pour que Dieu règne davantage dans la vie de quelqu'un, nous demandons en fait que cette personne soit dans la joie en lui. C'est là ce que glorifie le plus Dieu, notre bonheur. Revenons à la joie totale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette joie totale? Est-ce que ça veut dire que toutes les fois où nous sommes dans la prière, nous sommes dans un moment d'extase? On a comme des émotions fortes, hein? Des frissons dans le dos, hein? Il serait très mauvais de ma part de faire croire que nous avons toujours un énorme smiley, sourire, une joie explosive quand nous sommes dans la prière. Ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Et toute la Bible ne peut pas nous amener dans ces conclusions, du tout. L'un des livres les plus forts qui nous est donné comme exemple pour prier, c'est le livre des psaumes. Il y a tout le temps de la joie. La colère, hein. Boire, c'est très violent, hein. Des fois, s'il fallait même énumérer tous les sentiments qui sont dedans, il y en a tellement. Sentiments, émotions, qui ne sont pas du tout la joie. Mais même si on se rend compte que dans les psaumes, il y a énormément de louanges. Jésus lui-même, quand il arrive devant le tombeau où Lazare est mort et tout le monde se met à pleurer et lui, il pleure. Il sait très bien que Dieu va l'exaucer, il exauce toujours, mais pourquoi Jésus pleure? Et puis Jésus lui-même, quand il va prier pour juste avant de mourir, il n'est pas du tout dans un moment où il est dans une joie explosive. Même si on apprend plus loin dans un texte qu'il regardait plus loin la joie qui lui était réservée. Il y avait une joie quand même, quelque part. Voilà pourquoi il nous faut bien comprendre c'est quoi la joie dans la prière. Allons-y. Relisons le verset 24. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Tout est là pour savoir ce que ça veut dire. Donc, d'où vient la joie complète dans la prière? Premièrement, nous l'avons déjà vu, c'était un verset un peu plus loin, un peu avant, la joie vient de la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la prière, elle n'a aucun sens, elle n'a aucun lieu d'être, parce qu'on ne peut pas prier en son nom, donc on ne peut pas vivre de joie. Le fondement de notre joie, c'est l'Évangile, c'est Christ mort, ressuscité et qui revient bientôt. C'est cet accès libre que j'ai dans la présence de Dieu. Et cela, ça doit m'amener à le louer tout le temps. Alors là, déjà, juste avant même de demander, je suis déjà dans la louange. Là, normalement, il y a de la joie, n'est-ce pas? De se savoir sauver, pardonner nos péchés. Et en passant pour ceux qui, peut-être, sont dans des luttes avec des péchés, et pensant que, mais je retombe, comment je peux avoir cette joie par rapport à l'Évangile? J'aimerais te redire cela. Jésus t'aime. Même si tu tombes, même si tu retombes, même si tu as l'impression que tu es un hypocrite, je te dis tout de suite quelque chose là. Tu n'es pas un hypocrite si tu retournes dans les bras de Dieu en reconnaissant ton péché. Même si peut-être tu l'as accompli mille fois, Dieu t'aime toujours autant et son amour n'a pas changé d'intensité. Et combien moi, Manu, j'ai cru aux mensonges de l'ennemi et ça m'a fait ralentir dans ma vie spirituelle. Parce que j'avais du mal à croire à l'amour de Dieu et à son pardon me concernant. Parce que dans telle ou telle situation, j'ai du mal à vivre dans la sainteté. J'ai mes luttes, mes combats. Tu dois te savoir ce matin, et c'est un encouragement, Dieu t'aime. S'il est ressuscité, s'il est mort et ressuscité, c'est justement parce qu'il savait que toi et moi, nous serons toujours dans des luttes et que nous avons besoin d'un sauveur. Reconnais tout simplement que chaque jour, chaque seconde, tu as besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, Christ est ressuscité.
un accès libre dans la présence de Dieu. Deuxièmement, la joie vient de l'intimité avec Dieu. Avant même de demander, Jésus, quand il dit « demandez, vous recevrez », il ne dit pas « demander à des gens qui vivent une vie de péché hein. ». Il demande, ils disent là à des gens où clairement Jésus, quand il parle de demander, c'est très bien, c'est dans le cadre de relation, d'intimité avec lui. Vous comprenez? Donc même avant de demander, mais juste le fait de venir pour prier déjà, on est encore à la gauche, on va dans son intimité. Il y a une dure vérité à entendre ce matin. La plupart des chrétiens ne prient pas beaucoup. Ils ne prient qu'avant les repas. Ils murmurent des prières, voire ils s'endorment dans la prière le soir. Ils disent quelque chose de bref avant de dormir. Et très souvent, ce sont des prières vite lancées parce que ah, j'ai un examen, ah mince, et j'ai un problème, donc je fais appel à Dieu. Mais ce n'est pas ça l'intimité avec Dieu. Très peu mettre de côté du temps seul à seul avec Dieu. Encore moins pense qu'il vaut la peine de venir prier quand l'église est en prière. Et quand ces personnes se demandent, mais pourquoi ma foi est si faible? Oui, s'ils se demandent, mais pourquoi ma passion pour Jésus-Christ, mon amour pour Christ est si petit? Il ne faut pas chercher très loin. Il te manque l'intimité avec Dieu. Nous devons développer notre relation avec Dieu. Et là, il y a une invitation très forte à passer du temps avec Dieu, mais des rendez-vous, avoir des rendez-vous avec Dieu. Et ma question, c'est à quelle heure tu passes du temps à prier avec Dieu? Cette relation, ce rendez-vous, quelle est ton heure de rendez-vous? Oui, bien sûr, il y a la prière de tous les jours. Je prie tout le temps dans le métro, partout. Mais est-ce qu'il y a un rendez-vous? Parce que ces moments qui sont dans la journée ont besoin d'être alimentés par un rendez-vous particulier avec Dieu. Et c'est ces moments-là qu'on a besoin. Il est important, oui, de prier à chaque seconde, chaque moment qui en contrôle. Je l'avais dit dimanche dernier, mais je rappelle que pour avoir cette relation toujours plus intime, il nous faut des rendez-vous. Ayons un rendez-vous avec Dieu. 1, 2, 3, au moins un rendez-vous par jour. Commençons la journée dans la prière. Et développons notre intimité avec Dieu. Troisièmement, du privilège de demander. La joie complète vient du privilège de demander. Est-ce que vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous dépasse en tout point, ce Dieu qui est tout-puissant, que par sa grandeur, lui-même nous donne le privilège de prier. C'est totalement fou. Nous avons, nous, tendance, nous chrétiens, cette tendance à oublier ce privilège. Nous avons tendance à vivre comme si tout nous était dû. Ben oui, je peux prier. Oui, ben oui, je peux demander à Dieu. Et ce n'est pas normal de pouvoir demander à Dieu. Nous devons nous rappeler que c'est un privilège. Et juste le fait de nous rappeler que c'est un privilège, la joie vient aussi. On n'a même pas encore prié, mais il y a déjà beaucoup de joie. Vous voyez ce que je veux dire? L'évangile, l'intimité avec Dieu, le privilège de pouvoir demander. Autre chose, quatrièmement, privilège d'être exaucé. C'est encore plus énorme. Jésus donne une promesse. Mais est-ce que vous vous rendez compte de qui a donné cette promesse? Il y a plein de gens qui nous promettent des choses. Les banques, tout ça. Et les promesses de personnes ne sont pas tout le temps tenues. Et ça, on connaît. Au point qu'il y a beaucoup de crainte dans les relations. Si la communion fraternelle n'est pas toujours simple, c'est souvent à cause de ça. Toutes les fois, nous avons été déçus. Promesses non tenues. Les promesses que Dieu donne, quand il les donne, elles sont là elles s'accompliront. Ça, c'est un privilège énorme. Vous vous rendez compte? Celui qui vous dit, prie, prie, et tu recevras. Celui qui a dit ça, il le fera. C'est pas il le fera pas, il le fera. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Dans son caractère, ce n'est pas possible pour Dieu de mentir. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. Dans son caractère, dans la personne de Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. On n'a pas encore prié, mais juste le privilège de savoir que celui-là qui a dit ça, il l'exaucera. Ça devrait remplir entre nous. Cinquièmement, la joie de savoir que Dieu nous exaucera toujours dans un but bien précis. Notre joie complète. C'est énorme. Il pourrait juste nous exaucer pour autre chose, mais là, il nous exauce dans ce but-là. Donc vous comprenez quand Dieu ne vous exauce pas pour quelque chose en particulier, parce que ce n'est peut-être qu'il n'appelle pas bien pour nous, mais pour le bonheur qu'on a. C'est pas comme ça que nous pensons. Dieu n'a pas répondu, donc je suis pas content, il n'est pas gentil, il ne m'aime pas. Hé, Dieu, quand il répond, c'est toujours dans le but que notre bonheur soit tout à lui. Sixièmement, ce sera mon dernier point. Joie de l'exaucement. L'exaucement apporte une joie tellement immense. Le problème, c'est que nous avons des problèmes. Premièrement, nous sommes très souvent ingrats quand nous avons des réponses aux prières. Normalement, ça devrait nous porter à la louange. Et non seulement nous porter à la louange, mais comme disait souvent le psalmiste, il énumère, il n'oublie pas les bienfaits. Nous oublions si souvent, trop vite, les réponses que Dieu donne à nos prières. Combien d'entre nous ont un carnet où ils mettent tous les exaucements de prière? Combien d'entre nous? À mon avis, on est très peu de voir. Ce serait un bon exercice, là. Parce que ça, si on a un carnet comme ça, rempli d'exaucements, de quoi on remplit de joie, n'est-ce pas? Un autre problème que j'y vois par rapport à... c'est que nous avons peu d'exaucement tout simplement parce que nous ne demandons pas assez. Ou parce que nous demandons mal, pas selon la volonté de Dieu. Ou parce que nous avons un péché que nous n'avons pas confessé et abandonné. Une chose vraiment efficace, c'est de toujours vivre dans la repentance, tout de suite quand nous avons péché, avec un cœur sincère, et de prier toujours en ayant la parole de Dieu en main. Le Notre Père, par exemple, on l'a vu une fois ici, dans trois prédications. Le Notre Père nous montre comment prier selon la volonté de Dieu. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Et nous verrons beaucoup de sujets exaucés. Pour résumer, ce que Jésus veut nous dire, on pourrait dire ceci. La joie parfaite que Dieu veut nous offrir se trouve dans son intimité, la demande et l'exaucement. Trois choses. Intimité, demande et exaucement. J'ai essayé de réduire, hein, pas avoir les six points. Le temps est déjà écoulé, donc je vais juste finir en disant courtement ce que j'avais prévu de dire pendant plus de temps. La prière nous fait entrer dans un combat spirituel. Nous devons donc nous battre pour la joie par la prière. Quand moi je prie, moi Manu, j'ai plein de pensées qui viennent à mon esprit. Je pense que je ne suis pas le seul. Hein? On pense à plein de choses. Quelqu'un disait, si vous voulez penser à plein de choses, allez prier. On a vite ces combats qui viennent et Satan fera tout pour que nous ne prions pas. Ou si nous prions, que ce soit juste des prières bien religieuses, vous voyez, mais où il n'y a aucune intimité avec Dieu et aucune joie. Une des manières que je fais, et c'est à vous de réfléchir comment vous pouvez le faire, mais de manière pratique, ma manière de faire quand j'arrive pour prier, c'est des fois j'ai besoin d'écrire ma prière. Donc j'écris avec mon ordi, il y en a qui peuvent écrire à la main sur un carnet. La difficulté quand vous un ordi, c'est « Il y a un message, donc je vais regarder le message qui va arriver. » Faire attention avec ces moyens techniques parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être concentrés. L'autre manière de faire, qui est aussi une manière de faire qui est vraiment très personnelle, c'est marcher. Alors, si des fois vous arrivez à mon bureau et vous voyez ma vie en train de marcher, c'est normal, c'est ma manière de faire. Mais parce que ça m'aide. C'est peut-être aussi une manière assez commune, puisque souvent je vois les gens beaucoup marcher quand ils sont au téléphone, quand ils parlent avec les personnes, ils ne restent pas en place. En tout cas, Fanny, elle n'aime pas quand je suis au téléphone, moi je ne reste pas en place. Aujourd'hui, moi, parce qu'il me lançait, elle dit rester en place. Bon, faut pas lui dire. Mais voilà, je me mets à marcher et ça m'aide dans la prière. Il y a des gens qui partent à la forêt et qui prient comme ça. Trouvez quelque chose qui vous aide. Parce que vous êtes vraiment dans un combat spirituel, la chair n'aime pas ça, Satan n'aime pas ça, vous rentrez dans un combat spirituel. Prions, prions et prions. Trouvons la manière de pouvoir le faire au mieux. Je finis en disant ce que j'ai dit à vous, mais d'une manière plus personnelle. Demandons et nous recevrons deux buts qui sont les mêmes, la gloire de Dieu et notre joie complète.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole, elle est tellement bonne et elle nous montre à quel point tu veux notre joie complète. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous révéler ces choses pour que nous puissions vivre dans cette joie à laquelle tu nous appelles au travers de la prière qui a pour fondement l'évangile, Christ ressuscité. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous remplir de cette joie, que cette joie se voit et que vraiment ta gloire soit manifeste. Davantage dans nos vies. Père, merci pour ce que nous avons pu voir ensemble et nous.